Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Bouroumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Merci d'être avec nous en ce lundi 4 mars 2024 sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. L'Iran et l'Algérie ont signé des accords de coopération englobant plusieurs domaines. Le Hezbollah libanais attaque la caserne de Zarit et ses environs dans les territoires occupés. Et le président de la FNSEA annonce de nouvelles actions d'agriculteurs en colère. C'était les principaux titres, en voici le journal. L'Iran et l'Algérie ont renforcé leur partenariat en signant plusieurs accords de coopération, et ce dans le cadre de la visite officielle qu'effectue le président iranien Ebrahim Raisi en Algérie. La cérémonie de ces natures... Les deux pays ont signé dimanche des accords et mémorandums d'entente dans les secteurs de l'énergie, de l'économie, des start-up, de la culture et du tourisme, de la diplomatie ainsi que des médias et de la communication. Lors d'une conférence de presse conjointe, le président iranien Ebrahim Raisi a félicité le gouvernement algérien pour la tenue réussie du 7e sommet des chefs des pays exportateurs de gaz et a insisté sur les affinités religieuses, culturelles et civilisationnelles entre l'Iran et l'Algérie. Se référant aux positions politiques que partagent l'Iran et l'Algérie, notamment en matière de défense des droits du peuple palestinien opprimé et à leur opposition aux crimes et à l'occupation du régime israélien, le président iranien a déclaré « Ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est un génocide et un crime de guerre dont la racine réside dans les 75 ans d'histoire de l'occupation sioniste ». Raisi a considéré les soutiens politiques, financiers, militaires et médiatiques apportés par les États-Unis aux crimes des sionistes comme un chapitre honteux de l'histoire de l'humanité, tout en critiquant la passivité des organisations internationales et a affirmé « Aujourd'hui, les mains des États-Unis et de certains pays occidentaux qui soutiennent Israël sont couvertes de sang du peuple innocent et opprimé de Gaza ». Exprimant son profond regret face à la poursuite par certains pays musulmans de leurs relations avec le régime sioniste, malgré la poursuite des crimes contre le peuple opprimé de Gaza, le président iranien s'est exprimé en ces termes. La rupture des relations politiques et économiques avec ce régime serait un moyen de dissuasion contre la criminalité de ce régime. Le président iranien a salué les efforts de l'Algérie pour tenter de faire condamner le régime sioniste par la Cour internationale de justice. La CIJ doit intervenir rapidement pour mettre fin au bombardement et à l'occupation, punir et poursuivre en justice les sionistes et leurs partisans en statuant sur le génocide commis par ce régime, a-t-il ajouté. Le président Raisi a souligné La défense du peuple palestinien opprimé est l'un des principes immuables de la politique étrangère de la République islamique d'Iran. Nous n'avons jamais hésité à soutenir les droits du peuple palestinien. Nous considérons que la réalisation du droit des Palestiniens passe par un référendum auquel participeront les musulmans, les chrétiens et les juifs. Le premier ministre irakien salue le rôle phare de l'Iran dans la lutte du pays arabe contre le groupe terroriste Daesh, affirmant que les deux voisins partagent de nombreux points communs et affinités sur divers plans. Selon l'agence de presse irakienne Al-Aid, le chef du gouvernement irakien Mohammad Shia al-Soudani a fait ses commentaires dans une interview accordée au centre Al-Rafidain pour le dialogue, publiée dimanche 3 mars. La République islamique d'Iran est notre voisin et nous avons de nombreuses affinités sur les plans religieux et social. Durant la lutte contre Daesh, l'Iran est resté à nos côtés, a reconnu Al-Soudani. Ailleurs, dans ses déclarations, Al-Soudani a évoqué la présence des forces étrangères en Irak dans le cadre d'une soi-disant coalition internationale menée par les États-Unis. Toutes les conditions et tous les problèmes qui avaient motivé la présence de la coalition internationale en Irak ont désormais disparu, a martelé le premier ministre irakien. Il a ajouté que son gouvernement poursuivrait ses efforts pour mettre fin à la présence de troupes étrangères en Irak. La mission des conseillers militaires étrangers prendra fin selon un calendrier qui sera établi par le Haut Comité militaire, encore noté le Premier ministre. Le dit comité a été créé en janvier pour fixer un calendrier pour un retrait progressif des troupes étrangères et mettre fin à la présence de la coalition internationale dirigée par les États-Unis en Irak. Le premier ministre irakien a déclaré que la coalition militaire dirigée par les États-Unis et prétendument formée pour lutter contre le groupe terroriste Daesh finirait par mettre un terme à sa présence dans le pays arabe. Le Hezbollah libanais a mené une nouvelle attaque contre une position militaire israélienne en signe de soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza soumis à une guerre génocidaire de la part du régime occupant. Dans un communiqué publié lundi matin, 4 mars, le Hezbollah a déclaré avoir tiré des obus d'artillerie sur la caserne de Zarit et ses environs dans les territoires occupés. Il a ajouté que l'opération a été menée en solidarité avec le peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza assiégée et avec sa résistance courageuse et honorable. Dimanche également, le Hezbollah a lancé des opérations similaires contre plusieurs sites militaires israéliens, notamment Jalal Alam et Al-Malikiya, ainsi que sur le système de surveillance stationné à la base de Metula. Le mouvement de résistance libanais a également déclaré avoir déjoué les tentatives d'incursion militaire israélienne dans les villages de Remeish et Ramiya au sud du Liban. Le Hezbollah a déclaré que ses combattants avaient fait exploser un grand engin explosif contre les forces israéliennes de la brigade Golani qui avaient tenté de s'infiltrer à Ramiya et les avaient ciblés avec plusieurs obus d'artillerie. Les combattants ont également ciblé des soldats israéliens avec des roquettes près de Remeish. Le Hezbollah et Israël échangent des tirs depuis début octobre, peu après que le régime occupant a lancé sa guerre génocidaire contre Gaza, à la suite d'une opération surprise du mouvement de résistance palestinien Hamas. La guerre à Gaza a jusqu'à présent tué au moins 30 410 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, et en a blessé 71 700 autres. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a fermement condamné le fait qu'Israël prenne fréquemment pour cible les convois d'aide, affirmant que cela prouve que le régime sioniste insiste pour poursuivre son génocide dans la bande de Gaza assiégée. La déclaration du mouvement est intervenue dimanche 3 mars, après que, le même jour, les forces israéliennes ont bombardé un autre camion humanitaire à Deir al-Balah, dans le centre de Gaza, tuant et blessant de nombreux Palestiniens qui attendaient de l'aide. Cette attaque, la deuxième du genre menée par les forces du régime au cours des 5 derniers jours, s'est produite alors que des milliers de personnes affamées venaient chercher de la nourriture à bord du camion humanitaire. Les attaques de l'armée d'occupation nazie contre les convois militaires et plus récemment l'attaque d'un camion humanitaire envoyé par une organisation caritative koweïtienne à Deir al-Balah confirment que l'entité sioniste persiste à poursuivre son génocide et son nettoyage ethnique, a déclaré le Hamas dans son communiqué. Le mouvement accuse également le régime sioniste d'utiliser systématiquement la famine pour aggraver la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza et priver sa population de toute aide. Le Hamas a déclaré qu'Israël ne respectait ni le droit international, ni un récent arrêt de la Cour internationale de justice exigeant que le régime mette fin à toutes les formes de génocide à Gaza. Dans sa déclaration, le Hamas exhorte la communauté internationale, les Nations Unies et les pays arabes et islamiques à rompre leur silence injustifié et à agir à tous les niveaux officiels et populaires pour obliger cette entité nazie à mettre fin à sa guerre barbare visant à déplacer le peuple palestinien et à anéantir la cause palestinienne. En France, tant que les mesures annoncées par l'exécutif ne seront pas concrétisées, les agriculteurs n'entendent pas relâcher la pression sur les politiques et mèneront des actions localisées, annonce le président de la FNSEA dans un rapport publié dimanche 3 mars sur le Figaro. Les agriculteurs entendent poursuivre des actions sur le terrain, a affirmé ce 3 mars le patron du syndicat agricole FNSEA, majoritaire en France, première puissance agricole européenne, au dernier jour d'un salon de l'agriculture marqué par la colère du secteur en Europe et au-delà. À l'instar de leurs confrères européens qui ont manifesté en Espagne, en Allemagne, en Grèce ou encore en Pologne, les agriculteurs français protestent contre une concurrence qu'ils jugent déloyale de la part des pays hors de l'Union européenne, qui ne sont pas soumis aux mêmes règles et contre une bureaucratie et des normes qu'ils estiment trop lourdes, selon un rapport publié ce dimanche. Ils dénoncent aussi les prix d'achat trop bas de leur production dans le cadre de la politique agricole commune, PAC, et un manque d'aide au secteur. Sous la pression des agriculteurs, l'exécutif européen a formulé récemment des propositions pour alléger les contraintes réglementaires sur les agriculteurs et répondre à leurs revendications comme l'assouplissement des exigences sur les prairies, des simplifications administratives et la réduction des visites de contrôle. Depuis le début de la crise, en janvier, le gouvernement français a promis plus de 400 millions d'euros d'aide d'urgence. Le renforcement des lois pour protéger le revenu des agriculteurs ou encore de porter l'agriculture au rang d'intérêt général majeur. Le chef de l'armée soudanaise et président du Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, a déclaré dimanche que le Soudan avait pleinement confiance en l'Union africaine et a appelé celle-ci à pleinement réintégrer son pays au sein de l'organisation régionale. Al-Burhan a tenu ses propos alors qu'il recevait une délégation du groupe de haut niveau de l'Union africaine sur la résolution du conflit du Soudan dirigé par Mohamed Ibn Shambas. La délégation a été accueillie à Port-Soudan, la capitale de l'État de Mer Rouge, a indiqué le Conseil dans un communiqué. Le chef de l'armée soudanaise a souligné que toute solution devait être basée sur un retrait des forces de soutien rapide des villes et villages qu'elles occupent. Ibn Shambas a réaffirmé la nécessité de mettre fin au conflit et de rétablir la stabilité au Soudan pour le bien de son peuple. Il a souligné que le panel de haut niveau de l'Union africaine était désireux de trouver des solutions à la crise et avait écouté toutes les forces politiques en présence au Soudan. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les groupes palestiniens appellent à une campagne mondiale tempête du Ramadan contre Israël. Dans un communiqué publié dimanche 3 mars, les groupes palestiniens ont exhorté toutes les consciences éveillées à travers le monde à lancer la plus grande mobilisation mondiale au niveau national, régional et international pour contrecarrer les plans du régime occupant et faire pression sur Tel Aviv pour mettre fin au génocide à Gaza. Les groupes de résistance palestiniens ont exigé que cette tempête mondiale envisage toutes sortes de sanctions contre les occupants sous forme de boycotts, de grèves et de sit-in sur les places publiques en organisant des manifestations dans les capitales et les grandes villes. Israël cherche à anéantir la cause palestinienne et à exécuter ses plans contre le peuple palestinien par le déplacement forcé de ces derniers, la colonisation de Gaza, la judaïsation des lieux saints, le nettoyage ethnique et la discrimination raciale, ont averti les groupes palestiniens. Ils ont en outre réaffirmé leur soutien absolu à la résistance face à l'occupation israélienne et à son expulsion du territoire palestinien. Les groupes de résistance palestiniens ont appelé à activer la résistance sous toutes ses formes, dans tous les domaines et sur tous les fronts, considérant le mois béni de Ramadan comme le mois d'une tempête mondiale pour la victoire de la Palestine et de notre juste cause. Israël exécute un génocide à Gaza depuis le 7 octobre 2023, après que le Hamas a mené l'opération surprise Tempête d'Al-Aqsa contre l'entité occupante en réponse à l'intensification de la violence du régime sioniste contre les Palestiniens. Le porte-parole des brigades Al-Rots, Abu Hamza, a souligné le 2 mars que l'opération Tempête d'Al-Aqsa à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Irak, au Yémen et en Syrie se poursuivrait sur la base de l'unité et a exigé que le Ramadan soit le mois de la terreur et de l'inquiétude pour le régime israélien. Abu Hamza a appelé les nations musulmanes et arabes à désigner le premier jour du Ramadan comme journée internationale de l'aide à Gaza. Il a appelé aussi le peuple palestinien en Cisjordanie et à Rots de manifester leur colère aux ennemis sionistes. En réagissant au discours d'Abu Hamza, l'analyste politique Hani al-Dali a déclaré que ces déclarations s'inscrivaient dans le cadre des mesures prises par la résistance palestinienne pour organiser une tempête du Ramadan et une mobilisation extraordinaire.
Bonjour à tous, bienvenue dans la capitale iranienne, Téhéran. Viol, agression sexuelle, ce sont des informations données par un organisme concernant ce que vivent les Palestiniens aux mains de l'entité sioniste. C'est le sujet de notre débat. Tout de suite, nous allons vous proposer un reportage qui fera un résumé de la situation, ce qui a été dit par cet organisme, ce qui a été vérifié et prouvé. Et par la suite, nous ferons venir nos deux invités, notamment un juriste en droit public international. Je vous propose tout de suite donc notre reportage préparé à cet effet. A tout de suite.
Les experts de l'ONU se disent consternés par les violations des droits des femmes et des filles palestiniennes. Les rapporteurs spéciaux de l'ONU affirment disposer d'informations crédibles sur des femmes victimes d'agressions sexuelles et sur deux détenus qui auraient été violés. Les experts de l'ONU ont exprimé lundi 19 février leur inquiétude liée aux allégations crédibles de violations flagrantes des droits humains auxquelles les femmes et les filles palestiniennes continuent de faire face dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, rapporte l'agence de presse turque Anadolu. Des femmes et des filles palestiniennes auraient été arbitrairement exécutées à Gaza, souvent avec des membres de leur famille, y compris leurs enfants, selon les informations reçues. Les experts ont été choqués par les informations faisant état de ciblage délibéré et d'exécution extrajudiciaire de femmes et d'enfants palestiniens dans les lieux où ils cherchaient refuge ou pendant leur fuite. À au moins une occasion, des femmes palestiniennes détenues à Gaza auraient été enfermées dans une cage sous la pluie et dans le froid, sans nourriture, ont indiqué les experts. Nous sommes particulièrement affligés par les informations selon lesquelles des femmes et des filles palestiniennes en détention ont également été soumises à de multiples formes d'agressions sexuelles, telles que le fait d'être déshabillées et fouillées par des officiers de l'armée israélienne. Les experts ont déclaré qu'au moins deux détenues palestiniennes auraient été violées, tandis que d'autres auraient été menacées de viol et de violences sexuelles. Ils ont affirmé que certaines de ces femmes agitaient un morceau de tissu blanc lorsque l'armée israélienne ou des forces affiliées les ont tuées. Ces experts ont exprimé leur vive préoccupation concernant la détention arbitraire de centaines de femmes et de filles palestiniennes, notamment des défenseurs des droits humains, des journalistes et des travailleurs humanitaires à Gaza et en Cisjordanie depuis le 7 octobre.
Nous revoilà donc sur les plateaux. Tout de suite, nous allons vous présenter le premier invité, Maître Eli Atem, notre juriste en droit international public. Maître Atem, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui.
Bonjour et merci de votre invitation.
Alors, je rappelle qu'une telle émission sur de tels sujets, c'est surtout pour rappeler ce qui se passe, malgré le fait que beaucoup d'informations circulent déjà sur ce qui se passe en Palestine. Il ne faut pas oublier, il faut le savoir. Ce sont des sujets extrêmement difficiles à discuter, Maître Eli Atem. Ce sont des sujets extrêmement hard, surtout que nous voyons ça pratiquement en live, parce que quand on regarde, par exemple, qu'un camion humanitaire a été pris d'assaut par les Palestiniens qui meurent de faim, 100 personnes sont mortes, plus de 700 personnes ont été blessées, sachant qu'il n'y a pas d'aide humanitaire là-bas, c'est-à-dire les hôpitaux sont au minimum. Donc, ce sont 700 blessés, des potentiels morts également. Ce sont des choses extrêmement hardes à entendre tous les jours quand on se réveille. Pourtant, ce sont des choses qui vivent au jour le jour et que malheureusement, aucun organisme, les organismes sont là pour alerter, mais aucun pays ne fait rien de rien. C'est même le contraire. On donne des bombes, on donne des armes, on donne de l'argent et rien n'est fait pour les Palestiniens, rien n'est fait pour le peuple, rien n'est fait pour des citoyens, des hommes, des humains, tout simplement.
Effectivement, la situation est très alarmante en Palestine, en particulier à Gaza, qui subit un génocide. Tous ces éléments qui sont démontrés de plus en plus depuis le 8 octobre démontrent qu'effectivement, sur le terrain, comme l'a soupçonné d'ailleurs la Cour de justice internationale, il y a des actes qui tombent sous la définition de génocide telle qu'elle est prévue par l'article 2 de la Convention contre le génocide, sur laquelle d'ailleurs ces dispositions s'est fondée la Cour de justice internationale pour demander aux autorités, entre guillemets, israéliennes, pour ouvrir une enquête, ce qui est une aberration, parce que on ne peut pas demander à un tueur de nous apporter les preuves qu'il a commis ou il est en train de commettre des crimes. Et donc, il y a un élément qui est très important, c'est que, vous vous souvenez, pour justifier cet acte, ou plutôt ces actes multipliés depuis le 8 octobre, donc les forces militaires ou l'entité sioniste ou même toute l'entité sioniste a mis en exergue l'attaque de ce qu'on appelle le ras-le-bol de Al-Aqsa. Donc tel était le nom de l'opération qui a été menée par la résistance palestinienne pour exagérer en fait cette action, parce qu'il faut le rappeler que cette action a eu lieu à l'issue d'une série d'attaques meurtrières de la part des forces militaires israéliennes depuis des années de la population.
Nous avons perdu le son de Maître Atem.
Par une partie de la palestinienne, des cibles militaires. Et puis, donc, il y a eu peut-être quelques excès, mais ce n'est pas avec cette ampleur par laquelle les médias et les forces armées ont expliqué ça aux médias. Et là, il y a eu une accusation de viol, de décapitation.
Alors, Maître Atem, nous avons perdu votre son. Alors, il doit y avoir un problème technique. J'ai du mal à vous entendre. Ah, là, je vous entends. Là, j'ai vous entendu. Allez-y.
Ah, donc je reprends ?
Oui, s'il vous plaît. En fait, je vais rajouter quand même quelque chose. J'en profite pour bondir sur cette interruption, pour dire, bon, l'idée, c'est vrai, c'est, pour certains, c'est le 8 octobre, mais par exemple, les violations des droits des femmes, les violations sexuelles, il semblerait que beaucoup de prisonniers palestiniens ont indiqué qu'ils étaient souvent confrontés à ça, ou ont dénudé la femme palestinienne pour apporter une honte, une certaine honte aux hommes palestiniens. Il y a eu des propos qui ont été repris par rapport à des prisonnières palestiniennes qui ont été en prison très très longtemps, des prisonniers palestiniens qui ont relaté ces événements. Donc c'est vrai qu'on parle souvent du 8 octobre ces derniers temps parce que pour beaucoup c'est un grand enclenchement d'un massacre de masse. Mais disons que par exemple, ce genre de violation des droits n'a pas commencé le 8 octobre, et des vidéos et des photos. C'est en tant que vous, juriste public, c'est là que je voulais vous emmener. C'était vous dire, alors il y a des vidéos, parce que moi je suis beaucoup Twitter, enfin X, depuis le début des conflits, parce qu'on peut entendre les pro-palestiniens discuter, on peut également voir les remarques des pro-sionistes ou des pros de l'entité israélienne discuter, et on voit quand même que le 7 octobre, Haaretz, donc le journal sioniste, a bien indiqué que c'était prouvé avec des vidéos matérielles visuelles, hein, pas juste des dires et des rumeurs, comme quoi c'était bien l'armée de l'entité sioniste qui avait tué les 1000 et quelques Israéliens qui sont morts lors de ce festival de musique, que les Palestiniens sous le groupe du Hamas avaient juste cherché à prendre en otage les citoyens parce qu'eux-mêmes avaient des prisonniers palestiniens en prison pour sur un droit administratif qui leur donne aucun droit. En gros, on leur donne le droit de ne pas avoir de droit. Et donc tout ça montre qu'ils sont bloqués. Le droit des Palestiniens est complètement bloqué parce que même quand ils recherchent du droit, ils n'en ont pas. Et même quand on leur prouve qu'ils y sont pour rien pour le 7 octobre, c'est-à-dire le nombre de morts énorme, certainement il y a dû y avoir des morts. Du côté, le Hamas a dû provoquer des blessés et des morts en voulant prendre des gens en otage. Mais ce n'étaient pas les mille et quelques personnes qui sont mortes sous la déflagration des hélicoptères. Donc ce que l'on veut dire, c'est que les droits sont là, les preuves sont là, mais le droit, lui, il ne fait rien.
Alors, il faut commencer par rappeler que la situation actuelle à Gaza, en particulier, elle est alarmante et elle est inacceptable. Et puis, il faut dire une chose, que la Cour de justice internationale s'est fondée sur les dispositions de l'article 2 de la Convention qui est relative à la définition et à la condamnation des actes de génocide. Elle s'est fondée sur les dispositions de l'article 2 de ladite Convention pour avoir des suspicions assez importantes pour ces crimes contre l'humanité qui sont commises par les forces militaires de l'entité sioniste, qui est reconnue par les Nations Unies et par la Cour internationale de justice comme étant un État, l'État d'Israël. Mais ce que je trouve aberrant, c'est que quand même, qu'on ait demandé à l'auteur de ces crimes, parce qu'il faut dire que ces forces militaires sont considérées comme étant une armée d'un État qui est Israël, doivent elles-mêmes enquêter. Or, on le sait très bien, on ne peut pas demander à un criminel de rapporter les preuves de son crime et d'enquêter sur lui-même, sur les crimes qu'il a lui-même commis. Donc ça, c'est la première remarque. Deuxièmement, il faut dire, c'est que tout est justifié, ou bien, si vous voulez, on trouve toujours des arguments, l'entité sioniste trouve des arguments pour justifier ses actes. Et là, comme vous l'avez souligné, il faut rappeler une chose, l'opération du 7 octobre qui a fait l'objet d'une propagande pour justifier ce projet qui est celui de l'extermination et de la déportation des Palestiniens de leur territoire. Alors, le contexte du 7 octobre, il faut rappeler ce qui s'est passé avant le 7 octobre, c'est-à-dire il y a plus d'une quinzaine d'années où, et je ne vais pas jusqu'en depuis 1948, je parle d'une quinzaine d'années, c'est-à-dire depuis qu'il y a eu ce conflit au sujet donc de Gaza, les Palestiniens subissent des exécutions, un massacre et une extermination progressive, c'est-à-dire au cours de chaque semaine ou de presque tous les mois, il y a des morts de la part de Palestiniens, et je parle de civils palestiniens, sous prétexte qu'ils ont des liens ou d'autres avec le Hamas. En plus, il y a eu des provocations donc, de la part de politiques qui font partie de ce nouveau gouvernement de M. Netanyahou, et il y a eu à un moment donné un ras-le-bol de la part des Palestiniens, des Gazaouis, et c'est ce ras-le-bol qui a constitué cette opération du 7 octobre qui a pris pour nom la tempête d'Al-Aqsa, mais en réalité, il y a un double sens au mot le Taoufan Al-Aqsa, c'est-à-dire c'est le ras-le-bol et une pluie, c'est-à-dire quand les nuages se renforcent, et puis il y a plus de chances que d'attendre la pluie qui va tomber. Et c'est ce qui s'est passé, c'était le ras-le-bol. C'est comme si vous avez quelqu'un qui squatte votre maison et qui prend en otage vos enfants, qui tue le premier, qui tue le deuxième, qui brûle vivante votre mère devant vous, et puis vous appelez au secours la police, les voisins, et personne ne répond. Donc vous n'avez qu'un seul moyen, c'est de rentrer donc chez vous pour chasser et prendre des mesures par vous-même, vous faire justice vous-même, travailler pour la libération de votre maison par vous-même, et c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Il y a eu une totale exagération, parce que quand on a parlé des enfants décapités, et il faut rappeler là, le souligner, parce que quand même il y a une preuve très tangible, quand le président américain Biden a parlé de ce sujet, à l'issue de sa rencontre avec le premier ministre israélien Netanyahou, il a été vite, pas critiqué, mais mis à l'ordre par le service de communication de la Maison-Blanche en disant que c'est une erreur, il n'y a pas eu de preuve d'enfants décapités. Deuxièmement, en ce qui concerne les viols, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu une vérification des sources du viol. Le seul témoignage qui a eu lieu, c'est parmi les personnes ou les femmes qui ont été prisonnières lors de la prise d'otage, pas la prise d'otage, je dirais l'emprisonnement d'Israéliens par la résistance palestinienne. Une femme a témoigné qu'il y avait quelqu'un, l'un des membres donc du Hamas, qui aurait un regard qui fait entendre ou penser qu'il avait un désir sexuel envers elle. Alors, est-ce qu'un regard constitue juridiquement un acte de viol ou pas? Donc, il n'y a jamais eu, il n'y a aucune jurisprudence qui dit qu'on peut violer par le regard. Donc, ça, c'est la parenthèse sur le 7 octobre. Aujourd'hui, c'est un rapport quand même qui est tangible de la part quand même d'experts des Nations Unies. Personnellement, en tant qu'avocat, je suis toujours très prudent concernant ou relativement à ces éléments. C'est pour cette raison que j'ai été très critique en ce qui concerne, très prudent en ce qui concerne ce qui s'est passé le 7 octobre, en se posant des questions pour savoir si oui ou non il y a eu des exactions de la part du Hamas ou de la résistance palestinienne à l'encontre des femmes, à l'encontre des enfants condamnables au niveau du droit. Et c'est la raison pour laquelle je me suis dit, c'est qu'il faut attendre quand même des preuves tangibles. Or, jusqu'aujourd'hui, pour le 7 octobre, il n'y a pas eu de preuves tangibles.
C'est même le contraire, puisque ils ont montré les vidéos des véhicules endommagés du festival, en montrant ce que ça pouvait faire, une simple arme automatique, disant que c'était impossible d'avoir fait ces dégâts sur ces voitures-là à l'heure actuelle. Dans tous les cas, monsieur Adami, je voulais vous dire aussi une chose. Il y a des gens qui disent que si on prenait les vidéos partagées par l'armée de l'entité sioniste, parce qu'il y en a qui aiment partager leurs exactions directement en ligne, il était possible, parce que la majorité des membres de l'entité sioniste ont double nationalité, de les attaquer dans les tribunaux en Europe, c'est-à-dire là d'où ils viennent. Est-ce que vous pensez que ça, c'est du domaine du possible ?
Oui, alors attendez, il y a un élément aussi très important, c'est que non seulement se fonder sur ces vidéos, mais vous avez mentionné tout à l'heure quelque chose de très important, c'est que ce que le Haaretz a dévoilé, c'est que c'était l'armée israélienne qui était venue à la rescousse d'autres membres de l'armée qui ont été attaqués par la résistance palestinienne, qui ont elles-mêmes provoqué ces morts, de plus de 1000 morts lors de cette opération du 7 octobre. Deuxièmement, comme vous l'avez dit, donc il y a des éléments de preuve, etc., des vidéos qui ont été postées par des membres appartenant à ces forces militaires de cette entité, l'entité sioniste. Mais moi, je suis juriste, donc je me fonde quand même sur un élément aujourd'hui tangible, qui est une expertise qui est faite par les Nations Unies. Et je ne suis pas le seul. C'est que même, là, je dirais, la France officielle, parce que j'ai lu quand même, et j'ai regardé un reportage, et j'ai lu sur France 24, qui quand même est supposée être une chaîne nationale française. Qui, la France, on sait très bien, elle a une position qui est beaucoup, a été beaucoup plus pro-israélienne que pro-palestinienne. Et là, elle a révélé ces éléments en disant quand même, en se posant des questions sur ces actes de viol de femmes et exécution également sommaire de femmes et d'enfants. Donc, pour moi, quand même, ça montre la crédibilité de ces accusations.
Merci, Maître Iliatta. Notre deuxième invité, M. Bernard Cornu, nous a rejoint. Il va faire la conclusion de ce débat. Monsieur Bernard Cornu, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints dans ce débat. Donc, je rappelle, le sujet concerne donc ce document, cette expertise de la part de l'ONU concernant le fait de viol de femmes, de violences à caractère sexuel auprès de femmes palestiniennes emprisonnées, donc droit à d'emprisonnement. Il y a des droits internationaux concernant les personnes qu'on arrête, qui est sous finalement la garde de la personne qui a l'autorité. Et il y a des preuves tangibles que l'ONU a bien dit avoir en sa possession concernant ce genre d'exactions. Alors, comme je l'ai répété au début de l'intervention de Maître Aliatta, une chaîne comme Presse TV essaie également de rappeler ce qui se passe en Palestine pour rappeler que c'est ce qui se passe et c'est une importance, c'est important de rappeler que c'est ce qu'ils vivent depuis 15 ans, c'est ce qu'ils vivent depuis le 8 octobre, c'est ce qu'ils vivent tous les jours alors que l'on parle à nous et vous. Et donc, on voulait donner donc le sujet aujourd'hui à ce genre de choses pour rappeler aux gens de quoi on parle quand on parle de la situation palestinienne. Bernard Cornu, quand vous avez vu ce rapport de l'ONU, qu'est-ce que vous en avez pensé ?
En tant qu'ONU, forcément, il est fiable. Les témoignages qu'ils ont collectés sont forcément réels. Alors, peut-être certains sont peut-être... non pas douteux, mais disons, témoignent de menaces plus que de faits, mais beaucoup de témoignages parlent de faits. Voilà, donc, sous occupation, il y a des faits terribles, et c'est tous les événements de Palestine sont dus à l'occupation. Alors, bien sûr, en 48, il y a eu une extorsion de territoire par une guerre suite à des décisions de l'AG des Nations Unies et la création de l'État d'Israël le 14 mai, mais ensuite, à partir de 67, il y a eu une réelle occupation et des gens occupés, une résistance, une oppression, des rébellions. Et comme le dit Général de Gaulle, on appelle forcément ceux qui se rebellent des terroristes dans cette situation d'occupation. Et les méfaits sexuels ne datent pas de l'occupation, de l'agression contre Gaza. Ils datent depuis le début de l'occupation en 67.
Merci, Monsieur Bernard Cornu. Alors, c'est très difficile, humainement, de savoir que là, on se parle entre nous, et puis on sait ce que vivent là-bas les Palestiniens. On se rappelle également du camion humanitaire où plus de 100 Palestiniens sont morts, 700 blessés, sachant que, comme je l'ai rappelé au début, 700 personnes blessées, sachant que les hôpitaux ne fonctionnent pas, c'est 700 potentiels morts. Je veux dire, ce sont des choses que les Palestiniens vivent au jour le jour et on ne voit rien bouger. Je veux dire, il n'y a pas de sanctions contre l'entité sioniste, il n'y a pas une accélération du débat en Europe ou en Occident, sachant que ce sont les navires militaires occidentaux qui sont en train de bloquer les actions de blocage des outils. Sachant que les outils ne s'en prennent pas à l'entité sioniste directement, c'est bien indirectement en bloquant les maires qu'ils le font pour les pousser à arrêter ce qu'ils font en Palestine. On ne se sent pas un petit peu, désœuvré par rapport à la situation ?
Bien sûr, c'est une situation d'occupation et d'agression terrible. C'est l'événement le plus dur depuis l'occupation, depuis la guerre de 48, qui était assez équivalente, ou au Liban, la guerre de 82, dans laquelle l'armée israélienne a fait à peu près plus de 20 000 morts, et notamment, évidemment, parmi les civils, en bombardant Beyrouth massivement avec des bombes américaines. C'est un événement terrible, une fois de plus. Et il serait temps que l'Europe prennent l'initiative d'une résolution sous chapitre 7 pour la présenter aux Nations Unies, et tout en négociant les différents compromis qu'il faudrait faire de la part de l'État israélien, de ses colons qui sont là de façon illégale selon le droit international, et aussi trouver quelques mesures qui permettent que cette résolution soit acceptée par les États-Unis et à leur tour par l'État israélien, pour créer deux États côte à côte, avec, comme l'a dit M. Villepin récemment, au mois de novembre, un État avec, palestinien avec la Cisjordanie, avec Gaza, un couloir entre les deux, et Jérusalem-Est.
Merci, M. Bernard Cornu. Ce seront donc nos mots de conclusion dans ce débat. Je vous remercie, Maître Elie Atem, donc encore une fois, je répète, juriste international public, pour avoir accepté notre invitation. M. Bernard Cornu, de même, merci d'avoir accepté notre invitation. Le sujet est encore une fois la Palestine, pour rappeler au jour le jour ce que vivent les Palestiniens. Et c'est loin d'être une situation extrêmement facile pour eux. C'est même le contraire. On a l'impression qu'ils vivent un enfer. Je présente d'ailleurs toutes mes condoléances aux familles palestiniennes qui vivent au jour le jour cette abomination, et on espère que qu'une situation et une solution va vite leur arriver. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat, ici dans les locaux de Presse IV, toujours dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Voyage dans l'univers mystique de Molavou. Dans cette série d'émissions, nous allons vous raconter les contes traduits du persan en français, rassemblés dans un ouvrage qui s'intitule « Le Masnavi, 150 contes soufis ». Dès les premières pages, les traducteurs soulignent la subjectivité de l'ouvrage, puisque traduit par fragments seulement et d'une manière relativement libre pour donner le reflet le plus fidèle possible de la pensée de Jalaleddin Balkhi. Qui dit choix, dit donc également interprétation et partialité. La corde au cou. Un homme prétendit un jour être un prophète supérieur à tous les autres. On lui passa une corde au cou et on l'amena devant le sultan. Curieux de connaître l'origine de cette aberration, la foule se rassembla ainsi qu'une fourmilière. Si la pauvreté est un signe de prophétie, disaient les gens, alors nous sommes tous prophètes. Nous sommes bien tous semblables et nous sommes tous également venus de l'autre monde. Qu'y a-t-il d'extraordinaire à cela ? Il y a une chose que vous ignorez, répondit l'homme. Vous êtes venu sur terre par décision du destin, mais vous avez voyagé dans l'ignorance, comme un enfant qui dort, inconscient des étapes. Vous avez traversé bien des contrées, dans l'ivresse ou dans le sommeil. Vous n'avez rien su du chemin du haut et du chemin du bas. Nous avons parcouru l'univers avec nos cinq sens et dans les six directions, éveillés et joyeux. Nous avons vu l'origine et la finalité, car nos guides connaissaient bien le chemin. Le peuple demanda au sultan de torturer cet homme afin de faire un exemple. Mais le sultan remarqua que l'homme était si maigre qu'une simple chiquenote l'eût assommé. Son corps en était presque transparent. Le sultan se dit alors qu'il valait mieux essayer la douceur, car un langage tendre fait sortir le serpent de son repère. On fit évacuer le peuple et le sultan, plein de patience et de douceur, lui demanda d'où il venait et s'informa de ses conditions de vie. « Ô sultan, répondit l'homme, ma maison, c'est le pays du salut et ma direction, c'est le pays du blâme. Je n'ai ni demeure ni ami. Comment un poisson pourrait-il habiter sur la terre ?» Pour le taquiner, le sultan lui demanda « Quel est ton plat préféré ? Puis, qu'as-tu donc bu pour être ainsi ivre de bon matin ?»« Si j'avais du pain, répliqua l'homme, je ne prétendrais pas être un prophète. » Prophétiser devant un tel sultan est comme attendre qu'une montagne fasse preuve de cœur. La seule chose que la montagne puisse faire, c'est de renvoyer les mots qu'on lui adresse. Et ce faisant, elle se raille. Il ne sert à rien de parler de la vie à un cadavre, mais parle d'or ou de femme, et tous te suivront sans même prendre garde à leur existence. Dis-leur, une belle femme est amoureuse de toi. Va, elle t'attend. Aussitôt, ils courront dans la direction que tu leur indiques. Mais si tu parles le langage de la vérité et dis, dans cet univers éphémère, préparons-nous à l'univers de la vérité, qu'importe l'éphémère puisque l'éternité est possible, sache alors qu'ils voudront te tuer et ne crois pas qu'ils fassent cela pour protéger leur religion. Le sultan demanda « Qu'est-ce que la révélation ? Quel bénéfice un prophète tire-t-il de ses activités ?»« Tout ce que dit un prophète finit par arriver, » répondit l'homme. « Peut-il exister un royaume qui ne désire pas se joindre à lui ? La révélation d'un prophète, sans même parler de moi, veut bien l'inspiration dans le cœur d'une abeille. La révélation que Dieu a faite à l'abeille a rempli sa demeure de miel. Par sa révélation, Dieu a rempli l'univers de miel. Et comme l'homme possède la lumière du cœur, sa révélation ne saurait valoir moins que celle d'une abeille. » Rêve. Une nuit, un derviche, retiré dans sa cellule, fit un rêve. Il vit une chienne qui était pleine et entendit les aboiements des chiots. Cela lui parut très étrange. Comment ces chiots peuvent-ils aboyer avant même d'être nés ? Se demanda-t-il. Personne en ce bas monde n'a jamais entendu parler de semblables choses. À son réveil, sa stupéfaction ne fit qu'augmenter. Et comme il était seul dans sa cellule et que personne ne pouvait l'aider à percer ce mystère, il s'adressa à Dieu. « Ô Seigneur, je suis frappé de stupeur devant cette énigme. » Du monde de l'inconnu parvint cette réponse. Ce rêve est la représentation du discours des ignorants, car il parle alors qu'ils ne sont pas encore sortis des voiles qui les entourent. Leurs yeux sont fermés et ils bavardent inutilement. C'est aussi vain que l'aboiement d'un chiot dans le ventre de sa mère. Il aboie, mais il ne sait même pas ce que c'est que le gibier, ni ce que c'est que monter la garde. Il n'a encore vu ni loup, ni voleur. Le désir de se mettre au premier plan aveugle les ignorants, et leurs paroles sont téméraires. Ils décrivent la lune sans l'avoir vue et vendent l'air à leurs clients. Cherche des clients qui te cherchent vraiment. Ne te préoccupe pas de n'importe lequel d'entre eux. car il est mauvais d'être amoureux de deux bien-aimés.
Thank you.